Alors Dieu soit béni de ce qu'il nous rassemble ce matin. Est-ce que vous êtes convaincus que c'est Dieu qui nous rassemble? Parce que si c'est lui qui le fait, eh bien il a quelque chose à nous apporter et nous avons quelque chose à lui apporter à lui. Il y a vraiment cet échange qui se fait et si ce n'était pas Dieu qui nous rassemblait, ben nous serions peut-être une belle association intéressante, mais voilà, sans plus, comme tout ce qui existe au sein de ce monde. Alors, je bénis le Seigneur d'être avec vous, et c'est le dimanche de Pâques dans le calendrier, et bien, voilà, le thème, bien sûr, est tout trouvé, on n'est pas obligé hein, de s'aligner sur le calendrier, mais ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Donc, nous retrouvons le thème qui vient d'être apporté par notre frère, de cette résurrection du Seigneur et de la vie nouvelle qu'il nous donne à partir de son sacrifice. Et tout cela, c'est indiqué dès l'origine, bien sûr, dans l'événement fondateur, la libération d'Égypte par le Seigneur, donc de son peuple qui était esclave du Pharaon en Égypte. Donc la Pâque de l'Éternel, bien sûr, a son origine à ce moment-là. Mais voilà, je vais relire le texte et rappeler que la Pâque, c'est un ensemble, c'est... Voilà, un repas précisément, hein, mais associé à d'autres éléments qui sont absolument indissociables, incontournables. Il y a la Pâque, mais il y a la notion des premiers-nés qui appartiennent à Dieu. Il y a la semaine des pains sans levain qui suit la Pâque. Il y a la circoncision qui est cruciale. Et tout cela, donc, ça apparaît dans le texte d'institution de la Pâque, dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, et puis ensuite aussi le chapitre 13 qui reprend les instructions à ce sujet. Alors, c'est mieux, bien sûr, si vous avez votre Bible dans la même version que la mienne, ça va mieux à suivre. Voilà, j'ai la version second... 1979. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau » pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le 1er mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et adora, et les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y était mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays car ils disaient « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens et qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi, et ce même jour, L'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Et juste la mention du début du chapitre 13, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Voilà la Pâque de l'Éternel et son contexte. Donc la Pâque, c'est cet agneau lui-même, sans défaut, qui est immolé et rôti, puis mangé par la famille. Je lisais dans un commentaire cette dimension donc, de la famille, de la maison, qui implique qu'il y a dans la pensée de Dieu non seulement le salut individuel, mais aussi le salut des familles. N'oublions pas que malgré l'appel précis et individuel à la conversion qui se trouve dans l'Évangile et dans les Épîtres, il y a aussi cette parole « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Nous mettons nos enfants, vous mettez vos enfants au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ en vivant cette vie de foi et en leur enseignant l'Évangile. Donc c'est donc un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an, qui est choisi pour la Pâque. Et le repas est associé avec les herbes amères et le pain sans levain. Les pains sans levain qui doivent être constitués pour ce repas vont aussi ensuite faire partie de la vie du peuple d'Israël par le simple fait qu'ils ont dû partir avec la pâte qui n'était pas levée et donc ils ont dû continuer à faire du pain sans levain pour les jours qui suivent. Donc les pains sans levain, les herbes amères et aussi manger à la hâte. Et puis bien sûr il y a le sang sur le linteau et les deux poteaux de la maison. Et l'Éternel passe. Pâque signifie passer, l'action de passer. L'Éternel passe. L'ange de l'Éternel passe à travers le pays d'Égypte. C'est le moment du jugement. L'Éternel passe en jugement sur l'Égypte. Il frappe les premiers-nés du pays d'Égypte. Dieu avait dit, dès le départ, avant d'envoyer Moïse, au chapitre 2 déjà du livre de l'Exode, il avait dit, tu iras vers Pharaon, tu lui diras, Israël est mon premier-né, laisse partir mon premier-né, si tu ne laisses pas partir mon premier-né, je te prendrai ton premier-né. Voilà comment Dieu s'était donc exprimé à Moïse. Donc, il a appliqué ce qu'il avait dit donc, à ce pharaon dès le commencement, qu'il lui retirerait son premier-né s'il ne laissait pas partir son premier-né à lui, le peuple d'Israël. Et ce n'est pas seulement parce que là encore, il y a une notion collective dans le salut de Dieu ou bien le jugement de Dieu. Ce n'est pas seulement le premier-né de Pharaon qui a été touché, mais tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Puisque, en quelque sorte, hein, Pharaon qui se pensait comme un demi-dieu avait, en quelque sorte, les Égyptiens et le peuple d'Égypte étaient comme le premier-né de Pharaon. De la même façon que Israël était le premier-né du Seigneur. Et donc ce n'est pas seulement le fils propre de Pharaon, mais tous les premiers-nés d'Égypte qui étaient solidaires, on peut dire, de la condamnation et du jugement. Mais seulement, il n'y avait pas que les Égyptiens, il y avait les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte et qui, de ce fait-là, étaient eux aussi solidaires de ceux qui touchaient le Pharaon et son peuple. Donc le jugement qui était sur les premiers-nés d'Égypte, eh bien, il tombait également sur les premiers-nés d'Israël. Et c'est là qu'intervient la Pâque pour que le jugement soit épargné au premier-né d'Israël. Et donc, en étant protégé par le sang de l'agneau, les premiers-nés sont donc sauvés. Sauf qu'ils ne sont pas sauvés pour eux-mêmes, ils sont sauvés pour Dieu. Et ensuite, Dieu dit à Moïse, eh bien, il faudra que tous les premiers-nés me soient consacrés dans l'avenir, parce qu'ils m'appartiennent. Je les ai rachetés avec la Pâque. Ils ont été rachetés pour moi, pour m'appartenir, moi, à moi. Et donc, c'était ce qui a été le cas. Et ça veut dire que les premiers-nés étaient là, devaient, on peut dire, appartenir à Dieu, servir Dieu, ne faire que l'adorer, le glorifier, être dans le temple, le bénir, participer au sacrifice. C'était ça le rôle des premiers-nés au sein d'Israël. Et plus tard, parce que certainement c'était quelque chose de très difficile à maintenir et à mettre en place pratiquement, eh bien Dieu a remplacé les premiers-nés d'Israël par les membres d'une tribu particulière. Ce sont les Lévites que Dieu a mis à part pour représenter les premiers-nés qui le servent. Et donc la tribu de Lévi a été consacrée pour ce service au cœur du temple. Donc ce qui montre bien que ceux qui sont rachetés par l'Éternel sont rachetés pour le glorifier, pour le servir dans sa maison, dans son temple. Et c'est le cas donc des chrétiens. La condition, donc il y a des conditions pour manger la Pâque en commémoration de ce que devront faire ensuite les Israélites. Ils devront d'abord être circoncis. Aucun qui soit indigène ou esclave ou étranger pour participer à la Pâque, ils devront être circoncis. Il n'y aura pas d'exception. Et puis, dans la maison, on devra avoir fait disparaître le levain. Et pour bien montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'une partie de notre vie qui est débarrassée de ce levain, eh bien, c'est toute une semaine durant laquelle il ne devra y avoir aucun levain dans les maisons. Le levain, c'est le symbole du péché, de ce qui fermente de mauvais dans nos vies. Et il faudra que cela se soit totalement éliminé de la vie du peuple pendant toute cette semaine qui suit la Pâque. Et puis aussi, il y a ce détail il ne faudra, qui est donné pour l'institution de la Pâque, qui n'est pas précisé au moment de la première Pâque, mais que devront respecter dans le courant des âges les Israélites, ne briser aucun os de l'agneau ou du chevreau, puisque s'il n'y avait pas d'agneau, ils pouvaient le remplacer par un chevreau, mais en règle générale, c'était quand même l'agneau qui était choisi. Voilà. Pour l'origine, ce qu'a vécu Israël, et si je l'ai rapporté aux chrétiens, c'est bien sûr parce que le Seigneur et ses apôtres le font, et il y a en particulier ce chapitre 5 de l'Épître aux Corinthiens qui nous donne bien la mesure de ce qu'est la Pâque au plan spirituel. Verset 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà le régime sous lequel nous vivons. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a pris sur lui nos péchés, son sang a été versé à la croix, et à partir de là, notre vie doit être purifiée, débarrassée de tout ce qui est forme de malice et de méchanceté. Nous devons faire disparaître ce levain de nos vies pour vivre une vie sainte. Donc, lorsque nous nous convertissons, nous considérons premièrement la perfection morale de l'agneau de Dieu, hein, qui a été immédiatement désigné par Jean. Hein, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau était parfait, sans tache, bien entendu. Et il a été donné par Dieu comme parfait sacrifice. Si je prends 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 21. Ce n'est pas en effet par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Jésus-Christ est vraiment l'agneau de Dieu préparé par Dieu, donné par Dieu, parce que préparé avant la fondation du monde, prédestiné avant la fondation du monde à être ce sacrifice expiatoire pour le péché des enfants de Dieu. Oui, le parfait sacrifice, c'est bien sûr Jésus lui-même, notre Pâque. Et son sang a été versé, et ce sang est à s'approprier personnellement. C'est ce que signifie le sang placé sur le linteau et sur les poteaux de la maison, dans laquelle sont réfugiés les premiers-nés d'Israël. C'est vraiment ce sang, c'est la seule garantie pour que passe par-dessus nous le jugement de Dieu, qu'il passe en nous épargnant. Dieu passe sur tout ce qui fait la fierté humaine, nos désirs, nos espoirs. J'ai lu cette phrase dans un commentaire de C.A. Coates. Toute la force et la vie du monde sont sous le jugement de Dieu. Par rapport aux premiers-nés, les premiers-nés qui sont les prémices de la vigueur, dans lesquels il y a tout l'espoir, on peut dire, d'une nouvelle vie humaine, hein, lorsque les parents donc ont ce premier-né. Eh bien, tout cet espoir de vie humaine accomplie, pleinement développée, eh bien, tout cet espoir, Dieu y apporte un jugement. Donc, si nous considérons que notre propre vie, si nous mettons en quelque manière que ce soit nos espoirs en la chair, nous sommes perdus. Nous sommes sous le jugement de Dieu. Et Jésus a été donné pour que soit levé ce jugement et que nous puissions continuer à vivre d'une manière nouvelle devant Dieu, en ne nous confiant plus en nous, mais en ayant vraiment reçu le pardon par le sang de l'agneau. Il ne suffit pas de manger l'agneau. Remarquez les deux opérations qui sont associées. Il faut d'abord avoir mis le sang sur l'entrée, être couvert par le sang de l'agneau. C'est vraiment le temps de la foi, de la conversion de notre cœur à Jésus-Christ, l'appropriation de son sang pour être délivré de la condamnation. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous pouvons manger l'agneau. cet agneau rôti au feu qui est le symbole du jugement sur le péché. Le jugement a été porté par celui qui devient notre aliment. Jugement porté dans l'amour. Et c'est pourquoi il s'agit maintenant de le manger. Manger la chair de l'agneau, comme Jésus le dit. Hein, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Qu'est-ce que ça signifie sinon reconnaître que cet agneau s'est donné par amour, dans l'amour. Il s'est donné, il n'a pas été sacrifié comme ça, simplement par la haine des hommes. Il s'est donné en amour pour nous. Et donc, le manger, ça veut dire porter notre affection, nos pensées, nos désirs sur l'amour de celui qui s'est offert pour nous. Nous vivons maintenant de son amour. Nous nous alimentons en quelque sorte à l'amour du Seigneur qui s'est donné pour nous. Mais il y a les herbes amères qui accompagnent, et ça veut dire aussi que désormais nous avons vraiment conscience des souffrances de Christ et que nous nous jugeons aussi nous-mêmes par rapport à nos erreurs. Donc par la grâce de la révélation divine, nous participons aux souffrances de Jésus-Christ, vraiment avec un cœur qui l'adore par rapport à ce qu'il a supporté. Et puis il y a les pains sans levain qui sont associés. Nous participons à l'homme nouveau qui ne se corrompt pas, cet homme-là, par les convoitises trompeuses. Hein, Éphésiens 4, versets 21 à 24. Vous, donc, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous recevons de Christ la nouvelle nature, l'homme nouveau, et nous alimentons vraiment de cet homme nouveau. Nous désirons le voir se manifester dans nos cœurs et dans nos vies. Oui, c'est la vie. Donc à partir de ce moment-là, oui, il y a aussi ce passage de Jean qui nous dit « Celui qui est né de Dieu ne pèche pas. Hein? » Voilà, il est devenu une nouvelle création, et cette nouvelle création, elle est pure, elle est sainte devant Dieu. L'homme nouveau ne pèche pas. Mais il y a donc la suite, c'est-à-dire que il faudra aussi que pendant 7 jours, eh bien, les peuples d'Israël continuent à manger ce pain sans levain. Et ça nous indique combien notre vie, après notre conversion, doit être une vie sainte en conséquence de la foi que nous avons en Jésus-Christ mort pour nous. Tout le levain de malice et de méchanceté doit être remplacé par la pureté et la vérité. C'est une action que par la foi, bien sûr, nous recevons pour la nouvelle naissance en esprit, mais c'est aussi une action que nous mettons en œuvre dans notre vie de tous les jours, en, comme dit l'apôtre Paul, en donc nous délivrant, en faisant disparaître le levain de malice et de méchanceté. Mais c'est aussi le... Il est aussi appelé ce pain sans levain, le pain d'affliction. Donc, un peu plus loin dans le Deutéronome. Ça veut dire également que nous ne nous nourrissons plus, bien sûr, d'un bonheur factice. Hein. Ne cherchons pas à transformer la vie nouvelle que Christ nous donne, hein, en une vie humaine, renouvelée, mais à la manière de ce monde où on prend vraiment son plaisir dans la vie présente. Hein. La vie présente, elle est quand même marquée par l'affliction, par la souffrance. Et donc nous ne pouvons pas remplacer, on peut dire, substituer cette vie de repentance à une vie nouvelle chrétienne qui serait une vie de plein épanouissement et de plein bonheur terrestre. Ce n'est pas cela. D'ailleurs, la Pâque aussi devait être mangée à la hâte. À la hâte. Et pour moi, en méditant sur ce passage, le fait que la Pâque soit mangée à la hâte, je voudrais vraiment dire que ça signifie aussi ne transformons pas la vie de la foi, hein, notre communion avec Christ, en une sorte de nouveau banquet qui nous servirait à nous attarder, on peut dire, dans ce monde. Hein, c'est pour partir que nous participons à Christ. Ce n'est pas pour, on peut dire, même dans notre vie de relations chrétiennes, même dans notre vie d'assemblée, ce n'est pas pour continuer à être simplement bien ensemble et puis nous réjouir et continuer à nous réjouir d'être ensemble. La Pâque est mangée à la hâte parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe après, c'est que nous soyons vraiment délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance du monde, et que nous marchions vers le Seigneur et que nous arrivions à son royaume, à lui. Alors, ensuite, les premiers-nés devront être rachetés de génération en génération. C'est ce que j'ai dit en introduction. Ils formeront une assemblée sainte et nous la retrouvons, cette assemblée, décrite dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 23. Et ça nous parle de nous, les rachetés de l'Éternel. Hébreux 12, 23, oui. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Voilà comment s'exprime l'apôtre. Voilà, ils sont inscrits dans les cieux, ces premiers-nés. Ce n'est plus des personnes de cette terre. Ce n'est plus une assemblée pour cette terre, c'est une assemblée pour les cieux. Et si nous convertissons que nous devenons donc enfants de Dieu par la foi, eh bien nous approchons et nous sommes joints à cette assemblée des premiers-nés dans le ciel, dans les cieux. D'ailleurs, il y a dans l'Apocalypse, au chapitre 14, cette description des 144 000. Et je pense que ces 144 000 ne sont rien d'autre que ces premiers-nés dans les cieux. Je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit donc d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis est comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Oui, aujourd'hui, chaque converti donc appartient à Christ et joint à cette assemblée des premiers-nés qui sont là où se trouve l'agneau, qui chante le cantique à sa gloire, un cantique que personne d'autre ne peut apprendre, et qui glorifie Dieu, qui sont là pour le service de Dieu dans son temple. Alors, J'ai porté attention pendant ce message sur ces trois points que je pourrais bien sûr bien développer. Premièrement, il s'agit du rachat des premiers-nés d'Israël. Et donc, tout premier-né appartient à Christ et à Dieu. Et c'est le cas de l'Église qui a été rachetée par la puissance du sang de Jésus. Nous faisons partie de cette assemblée des premiers-nés pour Dieu. Deuxième insistance sur la semaine des pains sans levain. Vous remarquez au chapitre 12 la place qu'elle prend, le développement qu'il y a au sujet de cette semaine des pains sans levain qui suit la Pâque. C'est vraiment important de considérer la vie nouvelle qui est exempte de péché pour le croyant. Et enfin, la circoncision, qu'il faudrait reprendre aussi et développer, mais la circoncision du cœur. Nous ne pouvons pas vivre pour Dieu et participer à la vie de Christ sans être circoncis de cœur. Cette circoncision qui consiste, dit l'apôtre Paul, dans le dépouillement de la chair. Alors, pensons également à cela. C'est là l'appréciation divine de la vie des sauvés, l'après-Pâques en quelque sorte. Donc, la Pâque, c'est clairement l'effacement de nos péchés par la mort de Christ et le salut pour ceux qui se l'approprient. Et ils l'approprient parfaitement. Je pensais à cela qu'il est bien dit de mettre le sang sur le linteau et les deux poteaux. Imaginons un juif, un hébreu, qui aurait mis seulement le sang sur le linteau. Il n'aurait pas été encore couvert. C'est vraiment la foi totale au sacrifice de Jésus qui nous met à l'abri du jugement. Et je relève deux faits concernant Jésus, qui a été cet agneau. Premièrement, aucun os brisé. Vous ne briserez aucun de ses os. C'est le commandement qui est rappelé sous forme de promesse dans le psaume 34 au sujet du juste. Aucun de ses os ne sera brisé. Et qui s'accomplit sur la croix lorsqu'il s'agit de vérifier si les suppliciés sont morts, et pour accélérer en fait leur mort, eh bien les soldats brisaient les os des crucifiés, les os des jambes, pour qu'ils meurent plus vite, puisqu'ils ne pouvaient plus ainsi s'appuyer sur leurs jambes pour essayer de respirer à nouveau. Eh bien, ce geste n'a pas été accompli sur Jésus parce qu'ils ont constaté qu'il était déjà mort, et au lieu de cela, donc, le soldat a percé le flanc de Jésus et il en est sorti du sang et de l'eau qui vient donc pour purifier le croyant. Mais donc ces os n'ont pas été brisés en accomplissement, et Jean le signale, parce qu'il est écrit « Aucun de ces os ne sera brisé. » Et je pense vraiment que, comme il est dit que Christ a souffert dans la chair, hein, Christ a été réellement meurtri pour nous. Toutes ces blessures, toutes ces souffrances lui viennent de l'extérieur, lui viennent de nous. Il a été frappé pour nous. Mais lui est resté intègre. On peut dire lui est resté entier. Il a gardé son intégrité. Il n'a pas pu être touché, on peut dire, à l'intérieur. Il a souffert pour nous. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Son sang a été versé. Mais il est resté cette personne entière. Et ensuite, lorsqu'il a été mis au tombeau, sa chair non plus n'a pas été atteinte, afin que sa chair ne voit pas la corruption dans le psaume 16, et qui est repris en démonstration par Pierre dans son premier message de la Pentecôte, hein, au chapitre 2, verset 27. Pierre cite le psaume, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Et au verset donc 36, eh bien, il reprend cela en disant, donc, 31, c'est la résurrection de Christ qu'il a été prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, la chair de Jésus n'a pas connu la corruption. En lui-même, Jésus était l'homme parfait qu'il l'est resté aux yeux de Dieu. Et c'est ce Jésus-là qui est ressuscité. Et lorsqu'il apparaît à ses disciples, il peut leur dire justement, donc Alexandre a pris dans Jean et dans Luc, donc 24, verset 39, Jésus se plaît à dire aux disciples, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Le Seigneur Jésus est ressuscité, c'est bien le corps du Seigneur Jésus qui est ressuscité nouveau. Dieu a, en quelque sorte, l'homme nouveau s'est substitué totalement, hein, à l'homme ancien dans la résurrection de Jésus. Mais pour Jésus, c'était bien le même homme. Hein. Et donc, par la conversion de nos membres de ce corps saint ressuscité, qui est celui de Christ, qui vit pour Dieu, et notre corps à nous aussi, alors, bien, plusieurs ont pu expérimenter que notre corps à nous n'est pas épargné ni par le brisement des os, ni par la corruption. Mais ce corps sera, par le corps de Christ ressuscité, sera lui aussi ressuscité et vivra donc nouveau auprès de Dieu lors du jour de la résurrection. Donc ces choses sont encore à méditer, mais je voudrais qu'on porte vraiment notre attention sur cet agneau de Dieu qui en lui-même était parfait et est resté parfait aux yeux de son Père, et maintenant, voilà, vraiment fait la différence dans nos vies si nous l'acceptons et si nous revêtons de son sang par la foi, et que nous vivons maintenant nous-mêmes pour Dieu par la grâce qui nous est faite. Et nous vivons cela tous les jours. Bien sûr, ce n'est pas seulement une période de l'année qui doit nous inspirer à cela. Hein. C'est vraiment chaque jour, à partir du moment où nous sommes donnés à Jésus-Christ, eh bien, notre Pâque est accomplie. Et il nous faut marcher maintenant avec cette vie nouvelle, exempt du péché, dans l'espérance de son apparition, lui qui nous délivre de la colère à venir. Amen.